Café Rétro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, les heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
On va retrouver notre invité, docteur Didier Kamiri, qui est expert en VSID. On va parler de risques liés à l'utilisation en commun des objets tranchants. Bonjour docteur Didier Kamiri.
Bonjour.
Voilà, merci d'intervenir, d'être notre invité à ce magazine pour parler de risques liés à l'utilisation des objets tranchants. On le disait avant d'entrer dans le vif de ces sujets, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette pratique d'utiliser les mêmes objets tranchants. Vous pouvez par exemple utiliser à deux ou trois personnes les mêmes lames de rasoir ou encore une même lime pour ce qui est des femmes ou des jeunes filles. Et selon les experts, cette pratique peut avoir certains dangers, et notamment la propagation du VIH/SIDA. Alors avec le docteur Didier Kamiri, qui est expert en VIH/SIDA, on va découvrir comment cela peut amener à ce que les gens puissent attraper cette maladie. Nous rappelons le numéro des contacts si vous êtes intéressé par le sujet. C'est les 081-890-63-94. Vous pouvez aussi faire un SMS au 081-711-50-01. Il y a aussi la page de Facebook au Capi Service sur laquelle vous pouvez bien réagir. Alors, docteur Didier Kamiri, l'utilisation en commun des objets tranchants, et pourquoi c'est dangereux?
Oui, c'est dangereux parce que par cette voie, vous pouvez contracter plusieurs germes, plusieurs microbes, dont le VIH.
Oui.
C'est l'une des voies qui constitue aussi une des portes d'entrée du microbe dans votre organisme à côté de la voie sexuelle et de la voie mère-enfant.
Voilà, mais c'est curieux tout de même, docteur. Beaucoup de gens savent que c'est dangereux, c'est pas une bonne pratique, mais alors que les constats malheureux sont celui-là, il y a beaucoup de gens qui recourent à l'utilisation des mêmes objets tranchants. Ils estiment que c'est pas aussi évident que cela par rapport aux relations sexuelles non protégées.
Oui, les évidences sont telles que la transmission du VIH à ces jours c'est fait en majeure partie par la voie sexuelle, comme vous l'avez dit,
oui.
Plus de 80%. Mais la voie sanguine de la transmission mère-enfant continue d'alimenter les nouvelles infections à VIH. On estime que là, suivant les rapports du PNLS, à l'ordre de 5 à 10%. Donc nous avons encore 5 à 10% de nouvelles infections qui sont dues par la transmission par la voie sanguine. Et il y a des facteurs qui favorisent effectivement cette contamination par la voie sanguine.
Alors voilà. Alors pour ce qui est par exemple de l'utilisation d'une même lame de rasoir, à quel moment surtout le risque est plus grand?
Vous devez comprendre que quand on résume la transmission par la voie sanguine, il y a plusieurs facteurs qui sont à l'intérieur de cette contamination, de cette voie de contamination. Vous avez des contaminations qui se font en milieu hospitalier. Et vous avez des contaminations qui se font dans la communauté par certaines, au cours de certaines pratiques. En milieu de soins, on prendrait l'exemple des transfusions avec différents non testés, non sécurisés, les dons d'organes, ou un infirmier ou un médecin, en voulant récapitulationner une seringue, peut se piquer. Ça, c'est classique, ça arrive en milieu de soins. Il y a des accidents qui sont relevés. Et dans la communauté, malheureusement, il y a encore des pratiques qui exposent la population à cette voie de contamination du VIH. On prend l'exemple de certaines circoncisions traditionnelles qui continuent à se faire. On a des cas où c'est le même objet qui est utilisé pour plusieurs enfants. Et si dans cette série, il y a un enfant qui a le VIH, les autres qui vont souvent être contaminés. Si vous allez faire le piercing, on file, on le perce les oreilles quand elles sont encore toutes petites, et si la série, lors du moment du piercing, un de ces enfants a le microbe, ça va passer facilement chez les autres. Vous avez les pratiques telles que la pédicure, la manicure qui se font maintenant de porte en porte, ben vous pouvez avoir facilement la contamination par des objets tranchants ou des objets piquants en milieu dans les salons de coiffure. Dans les circonstances par lesquelles on est exposé à la contamination du VIH par la voie sanguine sont multiples, tant dans la communauté, tant en milieu de soins.
Ah, voilà. Donc, vous avez évoqué, pour ce qui est de la circoncision, et surtout en milieu rural, est-ce qu'il y a des précautions qu'on peut bien prendre par rapport à cela?
Nous conseillons essentiellement ce genre d'actes de face à l'élève de soins. Par exemple, les accouchements, lorsqu'on doit couper le cordon. Par exemple, les circoncisions. Ça doit se faire en milieu de soins parce que les objets qui sont utilisés, on n'est pas sûr de leur innocuité, on n'est pas sûr que ce sont des objets aseptiques qui ne sont pas souillés. Parce que l'objet tranchant devient dangereux lorsqu'il est souillé par des sécrétions qui sont contaminées. Et dans un milieu rural, comprenez que quand on fait des circoncisions traditionnelles, on n'est pas sûr de la qualité du matériel, on n'est pas sûr comment on va gérer cette plaie qui va être créée. Donc, vous comprenez que toutes les conditions sont réunies pour avoir plusieurs microbes dans le VIH. Et nous déconseillons que les circoncisions continuent à se faire en milieu, dans des pratiques purement traditionnelles.
Alors, pardon, par exemple, pour ce qui est des hommes qui vont au salon des coiffures, qui utilisent souvent la même tondeuse pour tout le monde, et puis on voit quand même avant que le coiffeur, après avoir coiffé une personne pour commencer à coiffer l'autre, on désinfecte quand même. Là, c'est quand même bon. On pense bien qu'il n'y a pas de risque. Le risque est zéro ou bien il y a un peu de risque tout de même.
Dans ce domaine, le risque zéro n'existe pas. Et l'idéal, c'est que chacun puisse avoir son propre matériel, l'usage des matériels individuels qui sont tranchants ou piquants. Et si on est dans la limite où on ne peut pas avoir du matériel individuel, que ce soit en milieu de soins, on procède à l'aseptie, on stérilise les matériels, par exemple en chirurgie, et on se rassure que à cette température, on élimine le germe. Dans la population générale, dans la communauté, l'idéal, les coiffeurs peuvent trouver des pratiques simples, utiliser des lames individuelles. Si on doit recourir à l'usage de la tondeuse et que la personne n'a pas le moyen de s'offrir une tondeuse propre pour des raisons purement économiques, on doit se rassurer que le germe a été éliminé par des pratiques, l'usage de l'alcool, parce que le germe est assez fragile par rapport à l'alcool. On doit bien sécher le matériel avant de l'utiliser. Mais dire que le risque devient nul, ça, on ne peut pas se permettre de dire cela.
Voilà, c'est pas certain de dire cela. Utilisation en commun des objets tranchants, quels sont les dangers? Docteur Didier Caméry, expert en VIH, d'un autre invité pour en parler. Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez appeler au 081 890 63 94.
Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi, une nouvelle du site web de Radio Okapi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 16h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Docteur Didier Caméré, on poursuit avec vous par rapport à ces sujets sur le risque lié à l'utilisation en commun des objets tranchants. Vous avez cité, on a cité par exemple pour ce qui est de la circoncision, on a parlé également du piercing ou encore lorsqu'on fait pour la pédicure ou la manicure, il faut absolument ne pas avoir en tout cas son propre matériel. Mais j'aimerais quand même par curiosité à savoir le matériel utilisé par exemple pour une circoncision. Lorsqu'on reprend du même matériel ou le matériel utilisé par exemple pour une manucure, est-ce que les dangers, le pourcentage sur le danger, la probabilité d'attraper le VIH-SIDA ou bien de se voir transmettre cette maladie, c'est la même probabilité ou bien il y a plus de risques par rapport à la circoncision ou encore à la manucure?
Oui, le risque va varier suivant la pratique utilisée. Si on est par exemple dans la transfusion, vous comprenez que là, le risque est très élevé. Si on fait par exemple une circoncision, on recourt à des pinces, on recourt à des ciseaux, on entre directement en contact avec le sang, le risque est plus élevé, par exemple, pour une personne qui recourt à la pédicure d'une personne à une autre, d'une source contaminée vers une personne qui n'est pas contaminée, parce que là, la quantité, les sécrétions, on est au niveau des liquides qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais le frottement qu'on fait au niveau de la peau avec la lime, il y a des micro-lésions qui sont à peine visibles, et ces liquides contiennent aussi des germes, c'est généralement des liquides lymphatiques, et on ne sait pas le voir à l'œil nu, contrairement à une circoncision, on voit du sang, et la quantité des germes est plus élevée. Donc, la voie utilisée, la pratique utilisée, la probabilité de contamination change aussi.
Nous allons accueillir un premier auditeur qui est en ligne, c'est Albert Mwananga qui appelle de Kananga au Kassa Occidental. Bonjour Albert.
Bonjour Marcel Ngombe, bonjour notre invité.
On vous écoute, quelle est votre question?
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. J'aimerais d'abord donner l'exemple d'un objet tranchant qui a blessé quelqu'un peut-être qui vit avec le VIH, ou encore quelques gouttes de sang exposées en plein air. Alors j'aimerais savoir, est-ce que c'est dangereux après une longue durée de ces objets et de sang exposés en plein air? C'est ça la question.
Merci. Parce que
j'avais reçu une affirmation, non, d'après avoir, après une longue durée, soit de 48 heures, pour les sang exposés, donc les virus ne doivent plus vraiment exister là. Comment le VTP nous aider avec cette affirmation? Merci beaucoup.
Merci Albert Mwananga, vous avez appelé du Kananga Kasai Occidental. Docteur Didier Kamere, qu'est-ce que vous dites à Albert Mwananga?
Oui, il est démontré que le VIH, le virus est fragile à des températures très élevées. Quand on commence à dépasser les 50 degrés, c'est un virus très fragile par rapport à des fortes températures. Et il ne résiste pas aussi à des fortes conditions de sécheresse. Mais on ne sait pas établir à quel moment, lorsqu'on expose un matériel à l'air libre, que les conditions de sécheresse ont atteint un niveau où on a détruit tous les germes qui étaient sur cet objet tranchant ou piquant. Donc on ne peut pas vous conseiller d'utiliser un objet qui a été tout simplement séché. Ça, le risque, même après 2-3 jours, comme vous l'avez dit, après 48 heures, on peut toujours avoir des conditions d'humidité qui a permis à certains microbes d'y résister. Et donc, le risque est assez élevé dans ces conditions. On ne peut pas prendre ce genre de risque.
Bernard Lombi, vous êtes à Manono, Katanga. Bonjour Bernard.
Bonjour Marcel, on m'a parlé à notre invité.
Quelle est votre question Bernard, on vous écoute.
Oui, moi j'ai seulement une préoccupation à poser à notre invité. J'aimerais un peu qu'il nous donne un peu conseil. Parce qu'ici, on a constaté au salon, les gens ne tiennent pas compte aussi des rames de rasoir utilisées. Et dès que vous arrivez là-bas, il prend ses mains, il vous coupe ou bien, même s'il y a un blessé, toi, tu parles, tu ne peux pas tenir compte de ça. Est-ce qu'il n'y a pas de risque au salon? C'était seulement ma première occupation. Merci, au revoir.
Merci, Bernard Lombi. Depuis Manono Katanga, docteur Didier Kamere. Qu'est-ce que vous dites à Bernard?
Oui, l'usage des lames sur plusieurs personnes, là le risque est quand même assez élevé parce que pour tous ceux qui sont passés à coiffure par les lames, on constate facilement qu'on se blesse et on ne peut pas se permettre d'utiliser une même lame pour 2-3 personnes. La contamination, si la personne qui vous a précédé est infectée juste après vous passer, le risque de contracter le VIH est assez élevé. Et les lames de rasoir, je pense que au niveau des salons de coiffure, quand on voit le prix moyen d'une coiffure, ça peut couvrir facilement l'achat d'une lame. Donc l'idéal, c'est d'avoir une lame individuelle, et dans ce cas, à usage unique.
Voilà, l'idéal, c'est d'avoir son propre matériel. Rigan Dondo, vous appelez de Kikwit, dans la province du Bandundu. Bonjour Rigan.
Bonjour, donc, j'ai une question à poser à notre invité. À savoir que j'ai mon ami qui avait sorti avec une femme qui est atteinte, mais par contre, l'ami n'a pas eu la virus. Donc, je ne sais pas pourquoi et quelle manière dont il avait fait pour ne pas être atteint. Mais il avait passé sans préservatif. Donc, c'est ça ma question.
Alors, Yann, c'est pas le sujet du jour. Nous parlons surtout de l'utilisation en commun des objets tranchants. Bon, on sera tout de même gentil. On va demander au docteur Didier Camere de répondre à votre question. Merci Didier, plutôt Rigen Ndondo, d'avoir appelé l'équipe 8 au banc Ndondo. Alors, docteur Didier Camere, vous avez suivi hier Rigen qui a parlé de son ami qui est sorti avec une femme qui était atteinte du VSIDA. Mais bon, d'après lui, jusque-là, l'ami se porte bien. Il n'y a pas de problème.
Oui, la situation décrite par notre ami d'équipe 8, c'est une situation assez classique. On parle de sérodiscordance. On peut avoir dans un couple, l'un des membres du couple est infecté et l'autre, malgré les rapports sexuels non protégés, n'est pas contaminé. Parce que la contamination, on parle en termes de probabilité. Ça dépend de la quantité des microbes qui ont été transmis. Ça dépend de l'organisme et de la personne qui reçoit ces microbes, votre organisme peut se défendre. Mais si ces contacts se répètent à plusieurs reprises, vous augmentez aussi cette probabilité d'être contaminé. La question est aussi intéressante parce qu'elle nous permet d'aborder un aspect des accidents. On peut avoir des accidents avec des objets tranchants et piquants à milieu de soins. Et ce genre d'accident, il faut juste après vérifier est-ce que la source est contaminée ou pas. Et si on ne peut pas vérifier la source, on doit se rassurer. Est-ce que cette personne n'est pas, qui a été victime de cet accident n'est pas contaminée ou bien c'est une contamination antérieure? Alors, pour le cas de votre ami, on doit commencer par lui faire un test de VIH. Si on se rassure qu'il est négatif, on le protège parce que ce n'est pas juste après le contact ou l'accident avec les moyens que nous utilisons couramment, c'est-à-dire les tests rapides qui recherchent les anticorps dans l'organisme, qu'on peut certifier que vous avez été contaminé ou pas. Vous pouvez avoir été contaminé, mais les moyens de détection ne relèvent pas la présence du microbe, parce qu'on recherche des anticorps qui seront visibles 3 mois après. Donc, il faut encore recommencer ce test. Ceci est valable pour les accidents, si on peut considérer ça comme un accident, par la voie sexuelle pour les cas de notre ami d'équipe, ou les accidents qui peuvent intervenir en milieu hospitalier où une infirmière se pique accidentellement avec une aiguille qui est suyée, des sécrétions, il y a des microbes à VIH. Il y a des pratiques à mettre à urgence pour éviter que ces microbes se développent dans l'organisme et on les bloque juste à l'entrée.
Voilà. Risque lié à l'utilisation en commun des objets tranchants. Quels sont leurs risques? Docteur Didier Camere, espérant VSIDA, notre invité. Nous rappelons le numéro du contact. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix et vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez appeler au 081 890 63 94. Nous insistons, il vous suffit seulement d'appeler, de donner votre numéro et puis nous on va vous rappeler.
Découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Les histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
On va se rendre à Kolwezi, dans la province du Katanga, pour retrouver Ilunga Kazadi qui est en ligne. Bonjour Ilunga.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité.
Allez-y, on vous écoute, quelle est votre question?
Oui, ma question est de savoir, je voudrais savoir l'origine de cette maladie SIDA, parce que c'est comme une épidémie ou bien parce que c'est une maladie incurable, encore c'est durable, je ne sais pas. J'aimerais savoir l'origine de cette maladie. Merci beaucoup.
Merci, merci. Mais Ilunga, dites-nous par rapport à l'utilisation des objets tranchants communs, vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à cela, vous, lorsque vous utilisez une lame de rasoir, par exemple, vous arrivez d'utiliser une lame de rasoir déjà, que quelqu'un d'autre a utilisé avant?
Oui, bon, j'ai encore un problème ici à Kolwezi. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser mes instruments. Quand vous allez au salon, vous avez déjà votre instrument pour vous coiffer. Donc, quand vous arrivez dans les salons, donc les propriétaires de ces salons-là refusent que non, nous utilisons toujours, il faut utiliser toujours nos instruments. Bon, je voulais d'abord l'inviter, quel conseil
pour le coup, bien donné, mais c'est les journalistes.
Voilà, merci. Donc, à Kazadi d'avoir appelé du Colisio Katanga, Dr. Didier Caméré, l'origine du sida, en grande ligne, hein, pour trouver la préoccupation de notre auditeur de Kolwezi au Katanga, Ilunga Kazadi.
Oui, l'origine du VIH a fait l'objet de plusieurs polémiques. Il y a eu plusieurs théories qui se sont succédées. Et à un moment donné, on pensait que c'était une malédiction divine qu'on avait donnée aux homosexuels, parce que le premier cas, en 1981, c'était aux États-Unis. Et après, on s'est rendu compte que le microbe était, sur le plan génétique, sur le plan morphologique, était proche d'un microbe qui était dans le monde des animal au niveau des singes. On l'a rapproché plus d'un singe qu'on rencontre vers l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, il y a plusieurs théories. On ne peut pas dire avec certitude d'où vient ce germe. Mais on a des évidences à quel niveau il s'est concentré dans le monde. Il s'est concentré plus en Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique où nous vivons, vous et moi. C'est l'Afrique pauvre, c'est l'Afrique où il y a beaucoup de guerres, il y a des conflits, il y a des déplacements des populations. Et c'est à ces niveaux-là que le VIH, parce qu'il y en a, de deux types, il y a le VH1, le VH2, le 1 est le plus virulent que le 2, et c'est ce type 1 que nous avons en grande quantité dans notre région que nous partageons ensemble. Donc, l'origine aujourd'hui importe peu. Nous savons là où il est plus concentré, et nous sommes en train de donner des messages comment éviter de l'attraper pour réduire les nouvelles infections. Nous avons beaucoup parlé de la voie sexuelle. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la voie sanguine parce qu'on continue d'enregistrer des contaminations par la voie sanguine, et nous pensons essentiellement que c'est dû à l'ignorance, le mode de transmission. Nous pensons que c'est dû à certaines pratiques qui se passent dans la communauté qui nous exposent davantage à contracter les gens par la voie sanguine. Donc, l'élimination des nouvelles infections passera par ce changement de comportement que nous sommes en train de réaliser ces jours.
Et docteur, un petit commentaire par rapport à Ilunga Kazadi, qui a appelé de Colouisio Katanga, qui a dit que lui, est généralement, en tout cas, ce qui le concerne, il a son propre matériel.
Oui, c'est quelque chose que nous encourageons. Si les moyens le permettent, c'est mieux d'avoir votre propre matériel. Et si c'est dans les salons de coiffure et que vous n'avez pas votre propre tondeuse, pourquoi ne pas demander au coiffeur d'utiliser juste une lame qui est à usage individuel? Et s'il faut vraiment recourir à la tondeuse, il faut vous rassurer qu'elle a été correctement désinfectée et séchée.
Alors, quel conseil pourriez-vous donner à des personnes qui sont en train de ne suivre à ce moment et qui ont cette habitude, en tout cas, d'utiliser en commun les objets tranchants et qui peut-être n'appellent pas? Mais bon, est-ce que c'est bon pour ces personnes d'aller tout de même essayer de faire un test sérologique?
Oui, nous encourageons toute la population de faire le test VIH parce que jusque-là, nous constatons que le nombre de personnes testées dans la population générale est assez faible. Donc, il y a des personnes qui ignorent, disons, l'infection à VIH. Comme c'est un microbe qui s'est multiplié très lentement, vous pouvez les garder dans l'organisme et continuer à contaminer d'autres personnes. Nous demandons à nos sœurs qui sont en train de pratiquer des pédicures de porte en porte, qui bénéficient de ce genre de services, et si elles peuvent avoir leur propre matériel, parce que le jeune homme qui utilise ces matériels, ou les jeunes filles qui font des portes en porte, ne prennent pas l'asepsie avec toute la rigueur pour éviter qu'il y ait cette contamination. Donc, lorsque vous serez au stade sida, il sera très difficile de savoir d'où est venu ces microbes. Vous allez penser peut-être à une voie sexuelle, mais que c'était une simple négligence, vous n'avez pas pris au sérieux des mesures de protection individuelle. Et donc, aujourd'hui, nous encourageons la population, nous encourageons nos sœurs qui bénéficient des piercings des oreilles, ceux qui font percer leurs enfants les oreilles, de se rassurer qu'on n'a pas utilisé des matériels piquants ou tranchants qui ont été utilisés à une autre personne. Donc, ça, ce sont des mesures simples. Nous voulons que notre population soit protégée par rapport à ces microbes.
Alors, docteur, également, ça c'est on le constate, beaucoup de gens qui se font tatouer, qui font vraiment du vrai tatouage, là également, ces personnes sont concernées lorsqu'ils utilisent le même instrument pour faire le tatouage à différentes personnes. Les dangers sont également le même.
Exactement, vous comprenez que la série des pratiques est assez. On n'est pas une liste exhaustive. Il y a plein de pratiques, certaines même qu'on ne connaît pas, mais toute qui vous expose à entrer en contact avec les sécrétions corporelles, comme le sang, comme les sécrétions vaginales, comme les liquides lymphatiques. Lorsqu'on fait les tatouages, ça dépend du type de matériel qui est utilisé. S'il y a abrasion de la peau pour obtenir ces tatouages, vous comprenez que ces matériels-là essuyaient déjà. Et si la personne est infectée, on peut utiliser ces matériels à une autre personne, on l'expose à la contamination. Donc, c'est une pratique où on doit suivre de près comment elle est pratiquée, comment on peut protéger sur la population.
Voilà, merci beaucoup à Dr Didier Caméré. Nous rappelons que vous êtes expert en VIH/SIDA. Avec vous, on a parlé de risques liés à l'utilisation en commun des objets tranchants. Merci d'avoir répondu à notre invitation à la prochaine occasion.
Merci.